Bonjour tout le monde et bienvenue en deux traites. Merci de nous syntoniser. Je m'appelle Alain Lemieux et je suis heureux de vous retrouver encore une fois. Les producteurs laitiers du Canada se réunissent cette semaine à Ottawa pour leur conférence politique annuelle, un événement clé pour l'industrie laitière du pays. Ce rassemblement réunit des producteurs, des experts, des décideurs politiques et des représentants du secteur afin de discuter des enjeux et des perspectives d'avenir du marché laitier canadien. Je suis sur place pour suivre de près les discussions et les annonces qui façonneront l'année 2025. Avec les défis économiques, la menace des tarifs et la demande des consommateurs en constante évolution, cette conférence est une occasion unique d'obtenir un aperçu des tendances à venir et des stratégies qui seront mises en place pour assurer l'avenir du secteur. Dans cet épisode, nous allons étudier les faits saillants des débats, les enjeux soulevés par les intervenants et les grandes orientations qui émergeront pour l'avenir du marché laitier canadien. Merci d'être à l'écoute. Entre deux traites. Notre invité est un économiste spécialisé dans le secteur agricole. Il est responsable de l'analyse des politiques chez les producteurs laitiers du Canada. Il a étudié l'agroéconomie à l'Université Laval, où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise. Il est également titulaire d'un diplôme en production animale de l'Institut de technologie agroalimentaire. Maxime Colette, bienvenue à Entre deux traites.
Bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir.
Ça fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi. On est justement à Ottawa présentement, et puis ben j'ai eu la chance d'assister ce matin à ta présentation justement concernant les marchés. Donc on va discuter dans le cadre de l'émission, on va discuter d'un peu de tout ce qui t'a mentionné ce matin, et puis approfondir ça pour nos auditeurs.
Parfait.
Donc si on commence, mettons pour l'année 2024, quel genre d'année ça a été pour l'industrie laitière au Canada?
En fait, en 2024, c'est ça, la production a augmenté, donc environ de 1,5% là, au niveau à la ferme, fortement influencé par l'accroissement de la population canadienne. On a observé un taux de 3%, c'est un taux qui est historique. En fait, on n'avait jamais vu ça depuis les années 50. Donc, on s'entend que c'est pas un taux qui a été observé dans la normalité, je dirais, ou dans les dernières années. Donc ça stimule davantage le bassin de consommateurs, stimule davantage la consommation et indirectement la production à la ferme.
Donc, une croissance démographique en lien avec l'immigration ou avec un genre de baby boom canadien?
C'est une bonne question. En fait, c'est l'immigration. Dans les dernières années, l'immigration a été l'important contributeur à la croissance démographique. C'est un phénomène qui est observé dans d'autres pays occidentaux également.
OK. Quand on regarde les indicateurs de la performance de l'industrie laitière, on peut constater qu'au niveau des revenus, au niveau de la production, du niveau moyen par litre, où on est en croissance. Mais quand on regarde aussi une diminution du nombre de fermes, qu'est-ce que ça tout ça veut dire?
C'est une bonne question. C'est un peu contre-intuitif de voir ce chiffre-là en rouge. Mm-hmm. C'est un phénomène de consolidation. Donc, dans peu importe le secteur, il y a un phénomène de réduction du nombre d'entreprises. Des plus grosses achètent des plus petites. Puis, dans le secteur laitier, il y a également ce phénomène qui est observé. On voit des producteurs qui prennent leur retraite, ils n'ont pas nécessairement de relève, puis une entreprise va venir chercher une partie de son quota ou le quota sera séparé à travers diverses entreprises. Qu'est-ce qui est la beauté au Canada, c'est que c'est un déclin qui est plus lent. Lorsqu'on se compare au taux des Américains, au taux de déclin, celui-ci est beaucoup plus fortement en diminution. Donc, la gestion de l'offre permet de ralentir ce déclin du nombre d'entreprises grâce, en fait, à la stabilité apportée grâce au système, en fait.
OK. Puis, avec les taux d'intérêt de qu'on a connus en 2024, il y a eu un épisode d'inflation. Du côté de l'inflation alimentaire, comment les produits laitiers s'en tirent?
Cette année, il y a eu un ralentissement. On n'est plus dans les années comme 2022-2023 où l'inflation était plus fortement élevée. En ce moment, on est en train de ralentir. On voit qu'en 2024, les produits laitiers à 1,8% sont en deçà de l'inflation générale qui est à 2,1%. Puis, on était également en deçà de l'inflation alimentaire qui est à 2,4%. Donc, on est retourné en fait dans la zone où on avait l'habitude de se retrouver. Si je regarde en fait la décennie 2010 à 2020, dans la majorité des années, on est en dessous de l'inflation générale. Durant la pandémie, on est venu rejoindre un peu le rythme de croissance de l'inflation alimentaire, mais là, on recommence à retourner en dessous. Là. 2024 a été une première année là, en dessous depuis la pandémie. Donc, pour 2025, la CCL a annoncé une baisse de prix à la ferme, une légère baisse de prix. Évidemment, on ne contrôle pas le prix à la transformation ou au détail, mais on s'attend à ce que ça soit relativement stable ou qu'il y ait une légère hausse.
OK. Puis, au point de vue justement des... il y a eu l'augmentation, l'inflation, on va dire, au niveau des produits laitiers, mais au niveau des tendances commerciales, on va dire, de consommation, au niveau des ménages, puis on parlait tout à l'heure d'immigration. J'aimerais ça faire un peu une corrélation dans tout ça par rapport, justement, on disait qu'il y avait une augmentation démographique due à l'immigration. Ces gens-là, versus la production laitière, comment ils interagissent?
C'est une bonne question. En fait, pour faire croître la population et indirectement la production, on a besoin de l'immigration. Parce que sans elle, la population serait relativement stable et la production également. De plus, on fait face aux importations. Donc, ça viendrait mettre encore de la pression davantage sur le niveau de la production. Donc, l'immigration est importante, elle contribue à augmenter le nombre de consommateurs au pays, ce qui fait stimuler davantage la production. Toutefois, comme je le présentais dans la présentation, lorsqu'on regarde le niveau de consommation par personne, celui-ci est en déclin. La population change à travers le temps, on a une population qui se diversifie, qui est en mutation. Il y a des groupes dans la population qui gagnent en influence et d'autres qui en perdent, ce qui fait changer le niveau moyen de consommation en produits laitiers par personne. Donc, sachant qu'il y a une diminution au niveau de la consommation de produits laitiers par personne, on repose d'autant plus sur la croissance de la population pour faire croître notre marché et notre production. Donc, c'est vraiment, il y a cette relation où l'immigration fait changer diversifie notre population, ça a une incidence sur le niveau moyen par personne, mais on en a besoin grandement parce que c'est elle qui fait croître notre marché, notre population et à la fin notre production.
Je vais y aller avec une question assez, assez on va dire, hypothétique, mais justement au niveau de l'immigration, ces gens-là seront peut-être moins attachés aux produits laitiers. Est-ce que tu penses que c'en est le cas ou donc au niveau de la consommation, ces gens-là peuvent-ils justement être de bons clients, on va dire, pour l'industrie laitière?
C'est une bonne question. Culturellement, lorsqu'on regarde les données, puis en fait, dans notre base de données, on capture seulement les Canadiens asiatiques, donc je peux juste parler pour ce groupe démographique. Culturellement, ils ont un niveau plus bas en consommation par personne en produits laitiers par rapport aux Canadiens non asiatiques pour le groupe des Asiatiques canadiens. Donc, il faut, en fait, si on veut stimuler davantage la consommation, il faut être en mesure de s'adapter, de comprendre leurs intérêts alimentaires, de comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent comme produits laitiers. Puis on le voit dans le fond dans le marché lorsqu'on regarde le ghee, qui est un produit assez prisé par les Asiatiques, le ghee, le beurre, le bas-beurre, en fait, j'ai dit le terme en anglais, mais le beurre clarifié, c'est un produit qui est en augmentation par personne. Donc, C'est de s'ajuster au nouveau Canadien, au Canadien moyen, donc qui n'est pas le même que dans les années 90, de manière à venir stimuler, rehausser, accroître le niveau de consommation moyen de produits laitiers par personne.
OK. Juste une parenthèse, tu parles de beurre clarifié. J'avais jamais entendu ça avant. Est-ce que tu peux m'informer un peu? Qu'est-ce que c'est?
C'est un beurre qui a une très forte composition en matière grasse. Je pense qu'on parle d'environ 99 %. Donc, ce qui est bon, si on en produit, si on en a davantage qui est consommé, ça vient stimuler davantage la production vu qu'elle est attachée à la matière grasse au niveau des quotas. Okay. Donc, c'est un produit très fort, très élevé en matière grasse.
D'accord. Quand on se compare à d'autres pays, on l'a pu le remarquer dans ta présentation ce matin, au niveau du prix de détail des produits laitiers, les produits laitiers canadiens versus les produits laitiers de d'autres pays, qu'est-ce qu'on remarque comme tendance?
C'est une excellente question. Ça dépend. Dans le fond, ça dépend avec qui on se compare. En fait, si je focus uniquement sur le lait, on voit que le Canada a un prix plus élevé en moyenne qu'une majorité de produits capturés dans nos graphiques qu'on a présentés dans la présentation. Pour le lait, le Canada en moyenne a un niveau plus élevé. Par contre, pour d'autres types de produits laitiers, à titre d'exemple pour le beurre, on voit qu'on est un petit peu plus à gauche dans le graphique, ce qui signifie qu'on a un niveau moyen de prix plus bas que divers pays dans le monde. Donc, pour le fromage également, avec les pays qu'on capture dans notre analyse, on voit que le Canada a un niveau plus faible qu'à titre d'exemple le Royaume-Uni pour le cheddar. Donc, ça dépend, mais on se compare très bien à d'autres types de pays dans le monde.
OK. Si on se compare justement à notre voisin du Sud avec tout ce qu'on entend parler dernièrement au niveau des produits laitiers, est-ce que c'est plus avantageux, mettons, les gens qui habiteraient plus près des frontières, est-ce que ça serait plus avantageux d'aller chercher le produit laitier de l'autre côté de la frontière ou ça n'a pas d'incidence?
C'est une bonne question. En fait, lorsqu'on regarde les prix au détail moyens aux États-Unis versus au Canada, on voit que pour le lait est plus cher au Canada au détail par rapport aux États-Unis. Par contre, pour les autres produits laitiers, ça dépend. On voit que la crème, elle est moins chère au Canada par rapport aux États-Unis. Puis quand je parle de prix, tout ça est converti en dollars canadiens, puis en moyenne par litre ou en kilogramme, dépendamment des produits. Le yogourt est moins cher au Canada en moyenne, lorsqu'on regarde les données Nielsen. Les fromages, ça va dépendre d'une étude à l'autre. Il ne semble pas avoir de consensus. Cela vient en fait confirmer que c'est relativement similaire. Si une étude à l'autre, il y a une différence en termes de consensus. Pour le beurre, l'ensemble des études ou des données démontrent que le beurre est moins cher en fait au Canada que par rapport aux États-Unis. Donc, c'est très, très comparable. Certains produits sont plus élevés, comme le lait, mais d'autres sont plus bas, comme le yogourt et la crème et le beurre, à titre d'exemple.
Donc, ça s'équivaut.
Exactement. Okay. Exactement.
C'est vraiment intéressant tout ça, Maxime. On va prendre une petite pause pour justement faire jouer le message de notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Et puis, on reprend la discussion juste après.
Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit, entre autres, que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada.
De retour avec Maxime Colette, responsable de l'analyse des politiques chez les producteurs laitiers du Canada. Maxime, quand on regarde le marché des produits laitiers canadiens dans son ensemble, quels produits se démarquent? On parlait de beurre, de lait, de yogourt, de fromage juste avant la pause.
C'est une bonne question. En fait, lorsqu'on regarde la dernière année, on peut observer que l'ensemble des produits laitiers ont connu une croissance. Comme je l'expliquais précédemment, la population est la principale raison. Sa croissance a été forte, ce qui a stimulé, dans le fond, l'accroissement de la consommation totale en produits laitiers. Le produit qui a augmenté le plus fortement, c'est le yogourt qui a augmenté aux alentours de 4% en 2024 par rapport à 2023. Donc, c'est vraiment lui, je dirais, qui connaît la plus forte croissance, du moins qui a connu la plus forte croissance en 2024.
OK. Puis, au niveau des habitudes de consommation, par rapport, on parlait de migration, mais aussi on peut parler de groupe d'âge. Par rapport au groupe d'âge, justement, au niveau des générations, quelles sont les habitudes?
C'est une bonne question. C'est ça, avec la base de données qu'on a obtenue avec HomeScan, on est en mesure de voir, dans le fond, la relation entre l'âge et l'évolution de la consommation moyenne par personne pour divers produits laitiers et substituts. Puis, le constat qu'on a observé, c'est que les jeunes adultes ont davantage tendance ou ont un niveau plus élevé de consommation pour des produits substituts, comparativement aux adultes plus âgés. Toutefois, il y a certains produits qui ont tendance à augmenter en vieillissant. On voit pour la crème, le fromage naturel, le beurre, les œufs. Les jeunes adultes, en vieillissant, on s'attend à ce qu'ils consomment davantage. Donc, il y a un accroissement qui est attendu. Alors que pour le lait, il y a plus un contexte générationnel. Le lait, les adultes plus jeunes, lorsqu'ils seront à l'âge de leurs parents, on ne s'attend pas à ce qu'ils consomment le même niveau que leurs parents. Donc, d'une génération à l'autre, le niveau de consommation moyen de lait diminue.
Est-ce qu'on observe, par rapport à un changement de mœurs générationnel, les tendances de consommation? Tu sais, les gens, mettons, baby boomer, en parenthèse, versus les gens, mettons, de la classe 35-40 ans ou plus jeune, par rapport à tous les produits proposés en épicerie aujourd'hui, on le sait, il y a une énorme variété, il y a même des substituts alimentaires qui sont à base de plantes, qui ont malheureusement une appellation qu'on peut dire « lait » entre parenthèses, mais est-ce que toute cette variété-là amène justement un changement de consommation par rapport aux mœurs générationnelles?
C'est intéressant parce que, dans le fond, les générations plus vieilles vont être moins tentées d'essayer des substituts de produits laitiers. C'est pas les produits qu'ils ont connus lorsqu'ils étaient plus jeunes, c'était non disponible sur les tablettes ou moins disponible. Donc, ils sont restés avec les produits laitiers un peu plus traditionnels. Alors que les plus jeunes générations ont plus tendance à en consommer ou à en essayer parce que c'était relativement présent sur les tablettes. Aussi, il y a d'autres facteurs. Je veux dire, il y a une perception, est-ce que la boisson végétale va être plus saine environnementalement parlant ou il y aura une autre perception qu'elle sera plus santé également. Donc, ça vient un peu jouer et influencer les habitudes de consommation des plus jeunes adultes. Donc, de notre côté, il faut éduquer, il faut continuer à défendre le fait que non, au niveau de la santé, les produits laitiers, c'est également sain, il n'y a pas d'enjeu significatif. Puis qu'au niveau de l'environnement, il y a du travail qui est fait, au niveau du bien-être animal également. Donc, les produits laitiers, je veux dire, doivent continuer d'être consommés parce que, dans le fond, ils ont une bonne image, une bonne réputation également.
Oui, c'est ça. Ouais. À le fond, on voit qu'au niveau de la génération actuelle de consommateurs, qu'il y a un effort de s'améliorer autant au niveau de la santé que de l'environnement ou toutes sortes de choses. Donc, ce qui, justement, qui dirige un peu les habitudes de consommation, si je pourrais exprimer ça de même.
Exactement. On le voit au niveau de la viande, il y a une tendance à essayer de consommer moins de viande, puis on voit que le niveau moyen de viande diminue à travers le temps. Donc, il y a ces changements de consommation qui viennent impacter certaines catégories, dont la viande, puis également le lait. Je dirais, vu qu'il est lié relativement à la vache, qui est un animal, ça l'impacte négativement. Toutefois, à titre d'exemple, pour le yogourt ou le fromage, c'est de la protéine laitière et non animale. Dans le fond, ils viennent capturer une partie de la consommation de la viande qui a été changée ou qui a transité vers le yogourt et le fromage naturel. Donc, ils viennent capturer, ils viennent d'une canalisation ou des changements d'une catégorie à l'autre qui bénéficient à certaines et qui, en fait, impactent négativement d'autres. Donc voilà. Ouais.
Dans ta présentation, on a vu aussi des données par rapport à la langue. Donc, parle-nous de la différence des habitudes de consommation au niveau des gens francophones.
Donc, en fait, c'est ça, dans la base de données qu'on avait, on voyait que les Canadiens francophones avaient un niveau plus élevé de consommation de produits laitiers et certains substituts que les Canadiens non francophones. C'est sûr qu'on parlait précédemment des Canadiens asiatiques qui ont un niveau moins élevé. Et majoritairement, on s'attend que les Canadiens asiatiques fassent partie du groupe des non-francophones. Donc, ce qui vient en fait diminuer le niveau moyen des Canadiens non-francophones. Donc, dans ce cas-ci, toutefois, les Canadiens francophones ont un bon niveau. Par contre, comme je l'expliquais dans la présentation, leur poids démographique diminue dans la population canadienne, ce qui a un impact sur le niveau de consommation moyen en produits laitiers par personne au Canada.
OK. Bon, ma dernière question, justement, par rapport aux tendances de marché, comment qu'on peut voir, comment ça va se dérouler à moyen et long terme?
Comment ça va se dérouler, c'est qu'on va continuer on doit continuer de dépendre de l'accroissement de la population canadienne pour faire croître notre marché. À moins qu'on soit en mesure de trouver une solution pour renverser le déclin observé au niveau de la consommation par personne. Mais tant que c'est en diminution, on va reposer sur la croissance de la population, donc sur l'immigration, pour faire croître le marché de la production laitière canadienne.
Probablement en s'ajustant au niveau des immigrants avec leurs besoins.
Exactement. Ça viendrait en fait stimuler davantage, parce que si on peut aller chercher un gain, un accroissement de leur consommation par personne en plus, ça viendrait dans le fond stimuler davantage la consommation totale et la production à la ferme.
Excellent. Merci beaucoup, Maxime Colette, d'avoir partagé ton expertise et ton analyse sur le marché laitier du Canada.
Ça me fait plaisir.
Bon, ben, je pense que c'est un bel éclairage, cette discussion-là, sur les défis et les opportunités à venir. Je pense que cette discussion aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les dynamiques qui façonneront l'industrie en 2025. Donc, on constate que depuis trois décennies, les changements démographiques et générationnels au Canada ont contribué à une érosion de la consommation du lait par habitant. Mais la consommation totale de produits laitiers au Canada a continué d'augmenter. Je pense qu'il est possible d'inverser la tendance à la baisse de la consommation par personne pour stimuler la croissance de la consommation totale des produits laitiers au Canada. C'est à nous de nous adapter à la demande et aux changements, car on l'a vu, il y a une tendance d'augmentation démographique et puis ces gens-là ont des besoins qui leur sont propres. C'est ce qui complète cet épisode. Je me dois de remercier notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Ce balado est rendu possible grâce au travail de notre équipe de production, Bruce Sargeon et Carl Bélanger. Merci à vous deux. Nos anciens épisodes sont disponibles sur les meilleures plateformes d'écoute en ligne et sur notre site entredeuxtraites.ca. Vous retrouverez justement ce lien dans ma bio sur ma page Instagram Ferme Lisière Bio. Si vous avez des commentaires, venez nous voir sur les réseaux sociaux Facebook, X et Blue Sky. Merci à tous d'avoir été là et puis on se reprend pour un prochain épisode d'Entre deux traites.